Est-ce que vous aimeriez vivre un temps de réveil? On répond facilement oui à une question comme celle-là. Tout chrétien authentique répond oui à une telle question. Parce qu'on aspire tous à un temps de réveil. Mais malheureusement, ou peut-être plutôt heureusement, ce n'est pas nous qui sommes capables de fabriquer le réveil. C'est Dieu qui agit par le souffle de son esprit, où il veut, quand il veut, comme il veut, pour susciter un réveil. Mais il est possible que lorsque nous disions soupirer après un réveil, nous ne sachions pas exactement après quoi nous soupirons. Nous voyons tout de suite un temps de grande bénédiction merveilleuse, mais nous oublions que souvent, on peut même dire, je crois, toujours, le réveil est accompagné de persécution, de consécration particulière, qui serait peut-être plus difficile à vivre si nous étions dans un temps comme celui-là. Lors du réveil de Genève, quand l'Église indépendante s'installa à Rives le 2 et 3 juillet 1818, c'est-à-dire ça fait bientôt 200 ans, pas tout à fait, Gabriel Mutzenberg, dans son excellent livre qu'il vous faut lire à tout prix si vous ne l'avez jamais lu, sur l'histoire du réveil à Genève, à l'écoute du réveil, nous dit ceci. Donc lorsque les chrétiens s'installèrent à Rives, des huées, des vociférations, des injures, des jets de pierres, des cris blasphématoires. Puis ce sont les poursuites, des poursuites dans les rues, des menaces, des violations de domicile. Ça, c'est pas à l'autre bout du monde. C'est à Genève, il y a moins de 200 ans. Quand l'Esprit de Dieu a soufflé, ce que les chrétiens ont eu à supporter, ce à quoi ils ont eu à faire face. Et ce n'est pas la seule chose. Parce qu'à côté de la persécution, en fait, il y a aussi souvent un engagement particulier de la part des croyants. Parce que ce que Dieu emploie à son service dans un temps de réveil doivent aussi manifester des qualités particulières. Et Dieu les forme pour cela. Alors, est-ce que vous soupirez toujours après un temps de réveil? J'espère qu'on peut dire oui, mais sachant que c'est pas forcément un temps facile et qu'un temps de réveil est un temps auquel, on pourrait dire, il nous faut nous préparer en voyant quelles ont été même les qualités spirituelles des hommes du réveil. C'est ce qui m'a poussé à examiner avec vous le livre de Néhémie ou la personne de Néhémie. On nous a demandé à chacun d'entre nous de prêcher sur un personnage. Et c'était un peu pas un problème, mais au début, quand j'ai reçu cette requête, je me suis dit, ouh, lequel? Il y en a tellement. Et puis, petit à petit, en priant, en réfléchissant, Néhémie s'est imposé à moi. Mais Néhémie, c'est pas seulement un personnage, c'est tout un livre. C'est 13 chapitres. Donc j'avais un peu peur de vous noyer dans les chapitres, mais je me suis dit, si seulement j'arrivais au moyen de cette prédication à vous donner envie de relire l'ensemble du livre pendant l'été, en vous donnant quelques pistes, quelques réflexions pour que vous puissiez vous guider dans cette lecture. Donc, ce que je vais faire ce matin, c'est aborder Néhémie, un artisan du réveil. C'est le sujet pour ce matin, le titre. Et je vais d'abord voir un peu le contexte de la vie de Néhémie, en faisant un peu un survol du livre, rapide. Et puis ensuite, nous verrons quelques qualités d'un serviteur du réveil. Des qualités à cultiver dans notre vie, si nous voulons que Dieu nous emploie, si dans sa grâce il envoyait un jour un réveil parmi nous. Alors, Néhémie, un artisan du réveil, et premier point, le contexte de vie de Néhémie. Au chapitre 1, verset 1 du livre, et si vous avez le livre devant les yeux, ça peut peut-être vous aider à vous y retrouver un peu. Donc si vous avez une Bible avec vous, ouvrez-la au prophète Néhémie, enfin à Néhémie, au livre de Néhémie. Et vous verrez qu'au chapitre 1, verset 1, Néhémie vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était le temps où les Mèdes et les Perses régnait sur tout le Proche-Orient. Il y avait l'Empire de Babylone d'abord, ensuite les Mèdes et les Perses, puis après les Grecs ont pris la place. Néhémie habitait à Suse, la capitale de cet empire. C'est toujours le premier verset. Il exerçait un métier à haute responsabilité, particulièrement en vue, parce qu'il était, nous dit le texte, échanson du roi Artaxerxès. C'est la fin du chapitre 1 qui nous le dit. « J'étais alors échanson du roi, début du chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès. » Donc, au début du livre de Néhémie, on se trouve en 445 avant Jésus-Christ. Pour vous situer un petit peu tout ça, bien comprendre le contexte, ça fait 90 ans que les premiers juifs sont revenus de l'exil pour reconstruire le temple de Jérusalem. Ça fait 70 ans que le temple a été inauguré. Alors on manie des chiffres comme ça, 50, 70, 90 ans, sans grande réflexion. Mais 70 ans, c'est long. C'est plus que la durée de vie. J'essaie de regarder un peu, mais je dirais de la plupart d'entre nous. Il s'en passe des choses en 70 ans. Le temple avait été consacré, avait été, oui, reconsacré à Dieu. Mais Esdras était arrivé depuis 13 ans maintenant à Jérusalem. Et les travaux, après avoir continué par rapport à la muraille, s'étaient arrêtés. Et voilà que quelques Juifs qui étaient à Jérusalem reviennent à Suse, la capitale, et donnent des nouvelles de l'état de la ville de Jérusalem. C'est le chapitre 1, verset 2. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes, arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Néhémie interroge ces Juifs qui arrivent. Il apprend que la muraille est en ruine, que les portes sont brûlées. Et ça l'attriste à tel point que le roi Artaxerxès voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez Néhémie. Néhémie est au service, il lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Et Néhémie explique ce qui se passe. Sa tristesse, parce que la ville de ses pères a les murailles qui sont en ruine. Et il demande un congé, je ne sais pas si c'est sabbatique ou pas, mais en tout cas il demande un congé de son travail des chansons pour pouvoir aller à Jérusalem et achever la reconstruction des murailles. Il arrive à Jérusalem, il reçoit le congé, il arrive à Jérusalem, après 3 jours, de nuit, tout seul, il fait le tour de la muraille, parce qu'il n'a rien dit à personne. Il fait le tour de la muraille pour essayer de constater les dégâts. Après cela, Le lendemain, il rassemble les magistrats, leur dit pourquoi il est venu, les exhorte à la reconstruction de la ville. Et Dieu souffle par son esprit pour donner le zèle à ce peuple pour reconstruire la ville ou la muraille de Jérusalem. Ça, c'est la fin, chapitre 2, versets 17 et 18. Et voilà que tout le peuple se met au travail, les uns à côté des autres. C'est le chapitre 3. Ils n'ont pas choisi seulement les maçons, les gens baraqués aux grosses mains. Ils ont pris tout le monde et leur ont confié chacun un petit morceau à faire. Alors, il y a bien sûr des maçons, mais il y a aussi des orfèvres. Vous avez déjà vu un orfèvre travailler ? Il travaille, c'est tellement fin, c'est incroyable. Et puis, il y avait des parfumeurs, des hommes, des femmes. Alors, je ne sais pas à quoi devait ressembler cette muraille une fois terminée, parce qu'il y avait sans doute des gens plus soigneux que d'autres. On devait peut-être dire, ben ici, il y a des tout petites pierres, c'est un orfèvre, là, c'est des toutes grosses pierres, ça devait être un gars costaud. On ne sait pas. Hein? Mais tout le monde s'est mis au travail, hommes, femmes. Mais on voit dans le livre de Néhémie que dès que l'esprit souffle, dès que le travail commence, l'hostilité arrive. L'hostilité des peuples alentours, qui ont cherché par toutes sortes de moyens à détourner le peuple, à décourager le peuple. Chapitre 4, versets 1 et 2. Le peuple prit à cœur ce travail, mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Voyez, l'œuvre de Dieu commence. Tant que les murailles étaient en ruine, pas de problème, on les laisse tranquilles. Dès que les murailles commencent à se reconstruire, la haine, l'hostilité contre le peuple de Dieu naît. Et au sein du peuple même, de l'intérieur, il y avait aussi des problèmes. Puisqu'il nous est dit au chapitre 5 que les gens riches du peuple profitent de la situation pour s'enrichir sur les plus pauvres. Enfin, grâce à Dieu qui donne sa sagesse à Néhémie, le courage, la persévérance, la muraille est terminée. Néhémie organise le recensement du peuple. On découvre qu'il y a à peu près 50 000 personnes, c'est le chapitre 7. Il le rassemble maintenant pour lire la loi de Dieu et s'y soumettre très concrètement dans la célébration des fêtes, dans l'humiliation, dans la repentance, chez les chapitres 8 et 9. Puis il règle quelques détails pour que la communauté, cette communauté puisse vivre ensemble dans la suite. C'est les chapitres 10 et 11. La communauté d'Israël s'engage solennellement à obéir à la loi de Dieu. Elle s'engage à la générosité envers le temple de Dieu. Et ils se répartissent les habitations. Ceux qui vont habiter en ville, ceux qui vont habiter à la campagne. En dehors des murailles. Et enfin, chapitre 12, ils inaugurent la muraille. Le chapitre 13, quant à lui, nous décrit une deuxième visite de Néhémie, qui a eu lieu probablement 13 ans plus tard. Parce que pendant ces 13 ans, ça a déjà dégringolé. Il y a eu une œuvre extraordinaire de Dieu. 13 ans plus tard, voilà qu'il y avait déjà eu des relâchements. Les Juifs qui s'étaient engagés à être généreux envers les Lévites n'étaient plus généreux. Les Lévites n'étaient pas payés. Le sabbat n'était plus respecté. Et Tobia, un ennemi du peuple, avait même réussi, par des histoires de famille, à obtenir une chambre privée dans le temple de Dieu. 13 ans, c'est pas très long. Voilà où on en était. Mais vous voyez, quand on regarde ce livre de Néhémie, on voit ce mouvement extraordinaire de souffle de Dieu. On commence par un peuple, une muraille en ruine, Et on termine au chapitre 12, verset 43, par un peuple qui consacre cette muraille renouvelée, redressée. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. Ça commence dans les larmes de Néhémie à Suse. Ça se termine dans la joie du peuple à Jérusalem. Alors c'est un livre qui est extraordinaire pour nous encourager aussi dans notre foi et nous aider à voir que quand Dieu souffle, il souffle et il agit de façon souveraine, mais il emploie des gens auxquels il donne des qualifications spirituelles particulières. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous. On ne peut pas fabriquer le réveil. Il faut pas. Il y en a qui essayent, avec beaucoup d'élan émotionnel, toutes sortes de trucs, mais ça ne se fabrique pas, le réveil. C'est un souffle de Dieu qui agit dans les cœurs. Donc si on ne peut pas préparer le réveil, qu'est-ce qu'on peut faire au moins? C'est observer le caractère ou les traits de caractère des artisans du réveil pour cultiver ces choses dans notre vie aujourd'hui, pour qu'on soit prêt. Si un jour le Seigneur daigne souffler encore sur nos régions. Donc on va voir maintenant les traits caractéristiques de cet artisan du réveil. J'en ai retenu 6. Il pourrait sans doute y en avoir plus, mais c'est pour que je ne pas vous épuiser complètement. J'en ai retenu 6, et je les ai tous fait commencer par P, pour aider votre mémoire. C'est un petit peu artificiel, mais c'est surtout pour nous aider au niveau de notre mémoire. Donc, quels sont les traits de caractère qu'on voit chez Néhémie, quand on examine un peu ce livre? Le premier, c'est la préoccupation. Chapitre 1, versets 2 et 3. On a déjà lu ces versets. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Néhémie est à un poste extrêmement élevé. Il se tient quotidiennement en présence du plus grand empereur de l'époque pour goûter ses mets. C'était un expatrié, probablement, on pourrait dire, de troisième ou de quatrième génération, c'est pas exactement. Mais probablement que ses parents étaient venus environ 150 ans avant, avaient été déportés avec les Juifs d'Israël à Suse ou dans la région. On pourrait dire qu'ils avaient réussi leur intégration, puisque Néhémie était à la cour du roi maintenant. Et au premier abord, on aurait pu penser que trois, quatre générations après avoir été expatrié, on s'est embourgeoisé. On a notre petite routine de fonctionnaire, comme ça devait être le cas de Néhémie, avec sa grande maison, beaucoup d'argent et tout. Mais ce qui est frappant ici, vous voyez, dans le caractère de Néhémie, c'est de voir qu'il se préoccupe encore de la ville de Jérusalem, de l'état de la ville et du peuple. Il pense encore à ce peuple. Et dès que des gens arrivent de Jérusalem, il ne dit pas, moi je suis trop occupé, j'ai mon agenda, j'ai mon iPod qui sonne de partout, je n'ai pas le temps. Il va voir ces gens et il leur dit, alors c'en est où? Qu'est-ce qu'il en est de Jérusalem? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette ville? Quand il apprend qu'elle est en ruine, il est complètement bouleversé. Il commence à jeûner, à prier, et ça se voit juste sur lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, vous voyez, il y a longtemps que sa famille est à Suse, mais il est encore préoccupé par l'état du peuple de Dieu. Et cet état le touche profondément dans son être quand il entend parler que le peuple de Dieu est dans un, ou la ville de Dieu, du grand roi, est dans un tel état. Paul manifeste d'un même souci dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 28, quand il dit, en parlant de toutes ces souffrances, de toutes ces misères, ces épreuves dans le ministère, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qu'en est-il de vous? Quelle est la préoccupation de votre cœur? Votre carrière professionnelle? Un meilleur revenu? Des loisirs qui vous passionnent? Une vie facile? Est-ce que vous vous préoccupez de l'état du peuple de Dieu? Est-ce que c'est une réalité qui vous bouleverse quand vous pensez à l'état de l'Église dans notre francophonie, par exemple, en France, en Suisse? Est-ce que vous avez le cœur qui saigne quand vous entendez parler d'une Église qui arrête ses activités, d'une autre qui se divise, d'un membre qui l'a quitté, qui la critique? Ça, c'est le premier trait caractéristique d'un artisan du réveil. C'est qu'il fait du peuple de Dieu, on peut dire de l'Église de Dieu aujourd'hui, un sujet de préoccupation réelle, un sujet dans lequel son cœur est engagé. Ça ne le laisse pas indifférent quand il entend des mauvaises nouvelles sur une église ou une autre. Ça doit nous affliger. Parce que l'église, c'est l'épouse du Christ. Et quand l'église du Christ est traînée dans la poussière et est mal vue, c'est le nom du Christ qui est bafoué. Notre Seigneur. Le premier trait de caractère, la préoccupation. Deuxième trait de caractère, la prière. Regardez, premier chapitre, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et puis après, il y a une longue prière magnifique de Néhémie, mais on ne va pas la lire pour ne pas être trop long. Néhémie, quand il entend parler de cet état, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se dit pas « je vais y aller ». Il commence par s'en remettre à Dieu, par prier Dieu pour l'état de l'Église ou du peuple de Dieu, de la ville de Dieu pour lui. Commence par remettre toute chose à Dieu, et on peut imaginer que c'est bien dans ce temps de jeûne, de prière, de tristesse, que le Seigneur a enflammé encore davantage son cœur pour l'état de cette ville. Et quand on examine la vie de Néhémie, on voit en fait, on pourrait dire deux sortes de prières. Il y a les moments de prière parfois lents, dans lesquels il répand son cœur devant le Seigneur. Et cette prière du verset 5 au verset 11 est vraiment magnifique. Et je vous encourage à la méditer, à voir comment Néhémie a prié dans ce genre de contexte. Mais il y avait des moments de prière, et puis il y avait ce que j'appelle un peu des prières flèches. On en voit une au chapitre 2, versets 4 et 5. Le roi me dit, au fait, que demandes-tu donc? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, s'il plaît au roi et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour que je la rebâtisse. Voyez ici, il est dans une discussion. Il est en train de discuter avec le roi lui pose une question, lui répond. Mais juste là au milieu, il y a une petite phrase qui dit « Je priais ». Il n'a pas pu dire au roi « Attends, je vais aller m'agenouiller dans un moment, je vais prier, puis je viendrai te répondre ce que je veux vraiment après. Hein ». C'est une sorte de prière flèche. Il n'a pas le temps de beaucoup réfléchir, il dit « Seigneur, viens à mon secours ». Mais comme il a des temps de prière, comme il sait que tout dépend de Dieu et qu'il est entouré de la présence de Dieu, on voit par là que, en fait, à chaque instant, il dépend de Dieu et il compte sur Dieu. Voyez, la prière, c'est pas un moyen par lequel je soumets Dieu à ma volonté, mais c'est une démonstration de ma dépendance de Dieu en tout temps. C'est pourquoi on a des versets qui nous disent « Priez sans cesse ». Puis on dit « Mais comment est-ce que je veux prier sans cesse ? Il faut quand même que je travaille de temps en temps. » Donc, ça veut pas dire qu'on est tout le temps dans des moments de prière, mais ces moments de prière démontrent que je compte sur le Seigneur, je cultive mon intimité avec lui, et puis ensuite, je vis dans la dépendance de lui tout le temps. Et quand une situation difficile arrive, j'ai juste une flèche que j'envoie à Dieu. Je priais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais le fait d'avoir cultivé mon intimité avec Dieu me permet de vivre cette réalité ensuite, au quotidien, à chaque instant. C'est pourquoi je vous encourage à veiller sur ces deux aspects distincts de la prière, à cultiver, comme Néhémie, ces deux aspects, des moments de prière, d'intimité avec le Seigneur et des recours à Dieu en tout temps dans vos journées. Alors, la préoccupation, la prière, et maintenant au chapitre 5, nous voyons le partage. Ce chapitre 5 nous relate un épisode assez triste de ce moment de reconstruction de la muraille. Je ne vais pas le lire, mais je vous le résume. Les grands et les magistrats juifs, qui étaient les plus riches, avaient commencé à prêter de l'argent à intérêt à leurs frères en profitant de leur situation de précarité. Cette situation était liée à deux raisons. Il y avait une famine d'abord dans le pays. Et puis la deuxième raison, c'est qu'ils étaient occupés à construire la muraille. Ils ne pouvaient pas construire la muraille et s'occuper de leur jardin et de leur champ en même temps. Donc, ils avaient voulu se mettre de tout leur cœur au service de Dieu et ils étaient dans une situation de précarité. Et voilà que les gens riches, qui avaient pas mal d'argent, ont commencé à se dire « Mais on pourrait peut-être faire un peu de sous là-dessus. » Donc, vous n'avez pas d'argent, mais dans 2 ans, ça ira mieux. On va vous prêter à intérêt. Et Néhémie, quand il a appris ça, était bouleversé. Attristé qu'au sein du même peuple, on puisse agir de la sorte. Et il les a repris sévèrement. Et il leur a montré, non seulement il les a repris, mais il leur a montré par son exemple que, en fait, tous nos biens appartiennent à Dieu et doivent être mis à son service. Néhémie avait tout un monde qui mangeait à sa table. Voilà ce qu'il nous a dit de lui. je pensais au verset 18. Voilà ce qu'on apprêtait chaque jour à la table de Néhémie. Chapitre 5, verset 18. On apprêtait chaque jour à mon compte un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur parce que les services pesaient lourd sur le peuple. Voyez ça? Il était gouverneur, il avait le droit de demander une indemnité pour son travail. Il dit, mais je me rends compte que ça pesait lourd sur le peuple si j'avais demandé cette indemnité. Alors, au lieu de demander un salaire, il dit, je vais mettre tout ce que j'ai au service du peuple. Au contraire, être généreux. Alors, probablement que la plupart d'entre nous ne sont pas aussi riches que Néhémie. Aucun d'entre nous n'est intendant d'un roi ou d'un empereur. Mais tout de même, quelle est notre attitude par rapport au bien que le Seigneur nous a confié? Est-ce qu'on se dit, ah, j'ai donné ma dîme, maintenant je suis tranquille. Il y a des besoins, peut-être oui, mais non, j'ai donné ma dîme, tout est en ordre avec le Seigneur. C'est facile d'agir comme ça, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, quand on donne la dîme, ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire au Seigneur, mais je reconnais que tous mes biens t'appartiennent. Si je peux donner plus, s'il y a des besoins, il faut que je les mette au service de Dieu. C'est pas je te donne 10% et les 90% sont pour moi, c'est je te donne 10% parce que je sais que tout me vient de toi. Et je veux vivre un artisan du réveil et prêt à mettre tout ce qui est là au service du Seigneur. Et si vous regardez dans les histoires du réveil, vous verrez souvent que ces gens qui ont été employés par Dieu étaient d'une pauvreté extrême. Parce que tout ce qu'ils avaient, ils le donnaient, ils l'investissaient pour le royaume de Dieu. Comme on l'a vu dans le texte de Matthieu 19, 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On ne peut pas être un artisan du réveil si notre trésor est dans nos biens ou si notre cœur est dans nos biens matériels. C'est deux mondes qui s'opposent, deux réalités qui ne vont pas ensemble. Alors la préoccupation, la prière, le partage. Quatrièmement, la prudence. Chapitre 6, verset 1er. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, ayons ensemble une entrevue à Kephirim dans la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. La stratégie de ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu peut varier. Et elle peut être extrêmement subtile. C'est ce qu'on constate lorsqu'on regarde la tactique ou les différentes tactiques des ennemis de Néhémie lors de cette reconstruction. Ils ont d'abord essayé la moquerie et le mépris. Ils disent, oh! Si un renard vient sauter contre votre muraille, elle va s'écrouler. Vous êtes nuls, vous n'y arriverez jamais. Ils se moquaient d'eux. Ça n'a pas marché. Ils ont continué à construire. Ensuite, ils ont tenté l'attaque. Mais Néhémie a mis des gardes aux côtés de ceux qui construisaient. Et ils avaient la truelle dans une main, l'épée dans l'autre. Et pendant toute la construction, il devait veiller toujours, ça avançait moins vite, mais il fallait être prudent pour ne pas se faire attaquer et surprendre par ces gens-là. Ça n'a pas marché avec l'attaque. Alors enfin, ils ont cherché à être beaucoup plus rusés pour essayer de nuire à Néhémie, voire même de le faire disparaître. Ainsi, ils se sont dit, si on fixe un rendez-vous, il va venir au rendez-vous et on va lui faire du mal sur le chemin, en allant au retour. Vous voyez la ruse un peu? Ça n'a pas marché. Ils ont essayé à plusieurs reprises. Alors après, ils ont même soudoyé un prophète pour tenter d'encourager Néhémie à aller se réfugier dans le temple. Donc, va te réfugier dans le temple. Et qu'est-ce qui se serait passé? Néhémie n'était pas sacrificateur. Il aurait été probablement consumé par le Seigneur, par Dieu lui-même, ou il aurait dû être mis à mort par son peuple. Voyez un peu la ruse, la subtilité des ennemis de Dieu pour essayer d'empêcher ce travail de se développer. Cet épisode de cette opposition doit nous ouvrir les yeux. On est souvent beaucoup trop naïfs par rapport à l'œuvre de Dieu. Voilà une église qui se dresse, qui grandit, qui se développe, et puis on se dit, mais oui, c'est normal, ça va toujours aller comme ça. Mais mes amis, réfléchissez, l'ennemi n'est pas content. Et il va employer toutes sortes de moyens pour essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Et ça ne va pas forcément venir avec des gros trucs qui nous arrivent en pleine figure. Ça peut venir extrêmement subtilement. L'histoire de Néhémie s'est répétée avec Jean Hus, au moment on peut dire qu'il est un précurseur de la réforme à Prague. Les catholiques romains lui ont dit, viens discuter de ta théologie au concile de Constance, on t'accorde un sauf-conduit pour que tu puisses venir discuter. Il est venu au concile de Constance, ils ont levé le sauf-conduit et ils l'ont tué. C'était hyper subtil quand même. Hein? Jean Hus est mort comme ça. Donc, c'est un élément. Mais il faut être sensible à cette réalité, vous voyez. Quand l'œuvre de Dieu se développe, les ennemis du peuple de Dieu, le diable emploie toutes sortes de stratégies pour essayer de nuire à cette œuvre. Et il faut être vigilant, prudent. L'apôtre Paul, quand il fait venir les anciens de l'église d'Éphèse à Milet, parce qu'il sait qu'il avait passé pas mal de temps dans cette église, il sait qu'il n'allait plus revoir cette église, il les fait venir à Milet, et voilà ce qu'il leur dit. Acte 20, versets 28 à 30. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que, du milieu de vous, se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. » Voyez, Paul dit à ses anciens d'Éphèse, « Faites attention aux attaques de l'extérieur. » Mais il leur dit aussi, faites attention aux attaques de l'intérieur. Parce qu'il peut aussi arriver que du milieu de l'Église, des gens se lèvent et cherchent à égarer l'Église de Dieu. La préoccupation, la prière, le partage, la prudence, et maintenant la prédication de la parole de Dieu. Chapitre 8. Je ne sais pas combien de temps vous supportez une prédication. Je pourrais faire un essai et continuer, voir jusqu'où vous supportez. Je ne vais pas le faire, rassurez-vous, je suis bientôt au bout. Mais dans ce chapitre 8, on a probablement un record de prédication. qui pourrait être inscrit au Guinness Book. Parce que la lecture de la parole en vue de la prédication a duré du matin jusqu'au milieu du jour. Chapitre 3. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Et tout le peuple était debout pendant la lecture de la parole de Dieu, en signe de respect pour celui qui avait inspiré cette parole. Puis, Néhémie, Esdras et les Lévites enseignaient le peuple. Verset 9 du chapitre 8. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, etc. Donc vous voyez ce qui se passait, on lisait la parole de Dieu, puis les Lévites étaient probablement un peu éparpillés dans le peuple, parce qu'il y avait tout le peuple qui était rassemblé pour la lecture, Esdras sur l'estrade qui lisait la loi de Dieu, et ensuite il y avait sans doute toutes sortes de questions, les gens, mais j'ai pas bien compris ça, et ils expliquaient, les Lévites, Esdras et Néhémie, exposaient la parole de Dieu au peuple. Ils l'ont fait là, à peu près toute la journée, et ils l'ont renouvelé pendant 7 jours avec les chefs du peuple. Peut-être que les enfants faisaient trop de bruit, je sais pas, on sait pas ce qui s'est passé. Mais après, ils ont rassemblé surtout les chefs du peuple, et pendant les 7 jours de la fête des huttes, ils ont lu et enseigné la parole de Dieu. Et la conséquence de cette lecture et de cette longue prédication, elle se trouve au chapitre 9, où on voit le peuple qui s'humilie, le peuple qui confesse ses péchés et qui jeûne. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, quand la parole de Dieu est lue, quand la parole de Dieu est prêchée, ça produit toujours un effet chez ceux qui l'écoutent. Parfois, un endurcissement chez certains, qui se révoltent, qui partent, qui ne veulent pas en entendre davantage. Mais une conviction de péché, une humiliation, une demande de pardon, un zèle pour le service chez les autres. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, il n'y a pas de réveil sans proclamation solennelle et on pourrait dire substantielle de la prédication, de la parole de Dieu. Tout réveil qui fait l'abstraction, ou tout mouvement, soi-disant de l'esprit, qui fait abstraction de la prédication de la parole de Dieu n'est pas un vrai mouvement de l'esprit. Parce que l'esprit se sert de la parole pour faire l'œuvre de Dieu. C'est au moyen de l'étude de l'Épître aux Romains que le réveil a commencé à Genève il y a, comme je disais, bientôt 200 ans. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'était des étudiants à la faculté de théologie qui n'avaient pas compris l'Évangile. Et voilà qu'ils rencontrent un marchand écossais, Robert Alden, un authentique chrétien qui était de passage à Genève. Il a commencé à les rassembler et à étudier l'Épître aux Romains avec eux. Et tout à coup, à l'étude de l'Épître aux Romains, leurs yeux se sont ouverts sur l'Évangile. Ils ont compris l'Évangile. Ils sont convertis. Et ils ont cherché à essayer d'enseigner ou d'apporter ce qu'ils avaient compris à la faculté de théologie. Et plusieurs sont faits malmener, mettre dehors. Et César Malan, dont on chante encore des cantiques aujourd'hui, a dû construire une chapelle dans son jardin pour pouvoir continuer à avoir un culte ici à Genève il y a moins de 200 ans. Hein? C'est pas si loin que ça. La prédication, la parole de Dieu. Et pour terminer, la persévérance. Je pense que ce chapitre 13, qui a lieu 13 ans plus tard, est un chapitre qui nous enseigne l'importance de la persévérance dans le ministère, dans le service de Dieu. Voyez, le souci de Néhémie pour la ville de Dieu, pour Jérusalem, n'a pas été juste un élan sentimental d'un moment. Il s'est pas dit, oh, les murailles sont en ruine, je veux vite aller construire ces murailles, et puis après je passe à autre chose. C'était un souci qui brûlait dans son cœur. Et 13 ans plus tard, ce souci était toujours là. Et il est revenu pour remettre les choses en ordre parce qu'elles s'étaient détériorées pendant ce temps-là. L'œuvre de Dieu, elle travaille dans l'œuvre de Dieu, est un travail continu et constant. On ne peut jamais penser, dans notre propre vie, on ne peut jamais penser que parce qu'on a mis tel principe en place, on est bon jusqu'à la fin. Vous avez sans doute déjà vu ça dans votre vie. Dites, voilà, j'ai de la peine avec mon culte personnel. Maintenant, c'est clair, j'ai mis les choses en place. J'ai mis 4 réveils pour que ça me sonne, ça me réveille bien le matin. Je prends une douche froide, je suis en forme, c'est bon. Hein, je peux faire mon culte personnel. Et puis, ça dure quelques temps, mais vous ne pouvez pas dire, c'est bon pour toujours. Hein. Après quelques semaines, la lutte est de nouveau là. Il faut de nouveau continuer à remettre le travail sur le métier tout au long de notre vie. La foi chrétienne est une question de persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus à ses disciples. Il faut persévérer, continuer. C'est ce dont Néhémie témoigne en particulier avec ce chapitre 13. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à observer pour chacun de nous aujourd'hui. Parce qu'on fonctionne beaucoup au coup de cœur. On est assez émotionnel aujourd'hui. On voit un missionnaire qui vient nous parler d'un besoin et on est prêt à se lancer à fond pour ce projet. Et puis on l'oublie. On est tout motivé pour les nouveaux projets de l'Église. Il semble qu'on va tout pulvériser en quelques semaines. Et puis le zèle se relâche. Et après quelques temps, c'est difficile de trouver des gens pour assumer ces tâches qui semblaient tellement extraordinaires et que tout le monde voulait accomplir d'un coup. La persévérance dans les petites choses, est une caractéristique à développer dans notre vie, à nous aussi. On vient de voir 6 caractéristiques d'un artisan de réveil. Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là en vous rappelant simplement ces caractéristiques et en vous encourageant chacun d'entre vous à vous examiner et à demander au Seigneur qu'il agisse dans vos cœurs pour qu'il cultive, il vous transforme pour que ces qualités-là se manifestent dans votre vie. La préoccupation pour le peuple de Dieu. La prière. Les moments de prière, les prières flèches. Le partage de tous vos biens pour le Seigneur et son œuvre. La prudence. Attention, on est dans un combat. La prédication de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Dieu fait son œuvre. Et enfin, la persévérance jusqu'au bout. Que le Seigneur nous vienne en aide aux uns et aux autres, et que dans sa grande bonté et dans sa grâce, s'il le veut, il nous envoie un réveil, et il nous fasse d'être, nous, des artisans du réveil. Amen.